pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est juste du bon sens. Ce que nous jetons dans nos poubelles, c'est de la matière dont nous pouvons faire quelque chose. Pour un Français, on parle quand même de 370 kilos par an. C'est deux fois plus qu'il y a 40 ans. Dans les pays en développement, c'est moins, mais ça monte. Alors comment faire pour diminuer ces quantités astronomiques qui coûtent cher à nos villes et salissent notre environnement, tout en en profitant pour améliorer notre quotidien? Il y a plein de solutions qui sont présentées ici, au Cabaret Sauvage, dans le 19e arrondissement de Paris, pendant 3 jours. C'est le premier festival international Zéro Waste, traduisé par Zéro Gaspillage. 150 intervenants et plus de 50 ateliers pratiques, et nous allons vous en présenter quelques-uns.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Flore Berglingen.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de Zéro Waste France, à l'initiative de ce festival qui est en toute modestie une première mondiale.
Absolument.
On peut
c'est
dire
la
ça
première fois qu'il y a un événement de cette ampleur-là qui va réunir à la fois des citoyens, des collectivités et des entrepreneurs, tous acteurs du mouvement Zero Waste.
Alors c'est quoi l'objectif? C'est de fédérer tout le monde?
L'objectif, c'est de créer un espace de rencontre déjà, parce que ces acteurs ne se rencontrent pas forcément au quotidien, de fédérer, de faire prendre conscience qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui s'est mis en place et qui prend de l'ampleur. Et puis, c'est aussi de faire découvrir la thématique et les solutions à un public encore plus large, évidemment.
Alors, comment est-ce que vous résumeriez cette démarche Zero Waste? C'est embêtant sur un média francophone de dire waste
oui,
tout le temps.
Mais alors, le seul avantage là du mot waste, c'est qu'il a deux sens. Ça veut dire à la fois déchet et gaspillage. Et c'est pour ça qu'on a gardé la terminologie anglaise, parce que pour nous, les deux significations sont aussi importantes l'une que l'autre. Il y a le déchet, il y a la pollution. La poubelle, ça représente encore et toujours une pollution. Mais il y a aussi le gaspillage. En fait, derrière chaque poubelle, il y a une consommation de ressources, de matières premières, d'énergie, d'eau, qui est considérable et qu'on a tendance à oublier, parce qu'en plus la poubelle elle disparaît assez rapidement de notre vue, et c'est ce gaspillage-là auquel il faut s'attaquer, parce que comme on sait, les ressources de notre planète ne sont pas infinies.
Et c'est une tendance mondiale, hein, comme le prouvent les invités que nous avons autour de la table. Bonjour Florence Léa-Siri.
Bonjour.
Vous êtes venue du Canada, c'était important pour vous de venir ici?
Ah oui, absolument. Quand mon amie française m'a partagé l'événement, tout de suite je les ai contactés pour leur dire de quelle façon est-ce que je peux participer, parce que au Québec, on n'a pas encore cette tribune-là. Donc, nécessairement, moi, je voulais transmettre la bonne nouvelle que je pratique au quotidien à Montréal.
Et qu'est-ce que vous êtes venue chercher ici?
Partager les idées, mais je pense que je suis surtout venue parler de la lutte au gaspillage alimentaire personnellement, parce que c'est ce que je fais, puis si c'était juste de moi, ça serait ancré en nous pour le futur. Donc, c'est juste de partager les idées comme ça, de s'influencer. J'aime beaucoup le concept qu'on est tous des petits influenceurs les uns les autres. Donc, c'est vraiment de partager ma passion pour la lutte au gaspillage alimentaire.
Voilà, votre concept, c'est chic frigo sans fric. Oui. On en parlera dans un instant. Même question pour vous, Mamoun Galab, venu spécialement du Maroc.
Oui, tout à fait. Donc, moi, je représente ici l'association Zéro Zbul. Zéro Zbul qui veut dire en arabe dialectal zéro déchet. Zbul, ça a une connotation très négative, vraiment. On a cette idée d'externalité négative qu'on laisse derrière nous après avoir fait certaines activités. Zéro Zbul, en fait, c'est une initiative qui a démarré d'un blog que j'avais lancé en 2013, où tout seul dans mon coin, je me suis dit, j'ai envie d'être plus en accord avec mes valeurs écolo et j'ai envie d'arriver à vivre en produisant zéro déchet.
Alors, vous allez nous expliquer votre démarche tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, à ce festival?
Au festival Zero Waste, ici, je veux d'abord rencontrer des gens qui, ailleurs, ont des démarches similaires, parce qu'au Maroc, on est très très loin de l'Europe en matière de gestion de déchets, et on peut parfois se sentir un peu seul quand on a ce genre d'idées. Et aussi, je viens pour partager une expérience qui est la nôtre au Maroc, parce qu'on est un pays où il n'y a pas de recyclage, un pays où il n'y a pas de tri sélectif, et même dans un système comme ça, il est possible de vivre en produisant zéro déchet, et je l'ai prouvé à travers mon expérience.
Il y a d'autres types de personnes autour de cette table. Cédric Carl, bonjour.
Bonjour.
Vous, avec votre association, vous travaillez sur la transition énergétique, mais là aussi, zéro gâchis. Expliquez-nous en quelques mots.
Oui, de manière transversale, effectivement, nos modes de vie utilisent pas mal de déchets et utilisent pas mal d'énergie, d'eau. Et nous, en fait, on est plutôt sur la thématique de l'énergie. Et donc, on collecte de manière collaborative, en fait, les innovations énergétiques présentes, mais surtout celles du passé, qui sont dans le domaine public notamment, à côté duquel on serait passé. Et là, je suis venu pour présenter notamment demain un projet qui s'appelle Regenbox et qui parle de l'histoire des piles alcalines qui, dans les années 80, ont eu des inventeurs qui ont travaillé dessus et qui ont fait des piles alcalines rechargeables à l'époque.
Et donc, si c'est rechargeable, ça évite de les jeter.
Voilà, ça se rechargeait 25 fois, donc c'est pas négligeable. Et aujourd'hui, les piles alcalines sont uniquement à usage unique. Et nous, on a travaillé avec de nombreux ingénieurs. On n'est pas du tout tout seul, hein. Il y a des gens qui travaillent depuis pas mal d'années là-dessus. On a décidé de sortir un régénérateur open source et de créer une communauté autour de cette question du gaspillage des piles.
Et à mes côtés, Jean-Jacques Fasquel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maître composteur depuis plusieurs années maintenant et vous animez un atelier, il est en face de nous, là, Zéro Compost, pour sensibiliser les gens.
Oui, donc je suis venu pour animer différents ateliers sur notamment le compostage en pied d'immeuble, qui est un peu ma spécialité, puisque j'ai d'abord été un citoyen qui a voulu transformer 30% de sa poubelle dont vous parliez tout à l'heure en compost. Et donc j'étais le pionnier du compost en pied d'immeuble à Paris et j'en ai fait maintenant mon métier. Donc j'accompagne tous ceux qui veulent le faire aussi au quotidien dans différents environnements.
Et vous allez nous expliquer à quel point cette démarche a pris de l'ampleur. Mais il ne faut pas croire que c'est une démarche uniquement individuelle. Hein. Flore Berlingen, il y a des villes qui se sont lancées le défi zéro gaspillage. Il y en a pas mal ici qui sont venus témoigner.
Oui, et en ce moment même, sur la scène principale du festival, il y a une session qui s'appelle « Les villes zéro déchet » et plusieurs pionniers sont venus témoigner. On a Robert Reed qui représente la ville de San Francisco, engagé dans une démarche Zero Waste depuis presque 20 ans et avec un engagement très fort pris dès 2002. On a aussi des représentants italiens parce qu'en Europe, contre toute attente peut-être par rapport à l'image qu'on peut avoir parfois des pays du sud de l'Europe, et ben en fait c'est bien là qu'on trouve les meilleurs exemples.
Notamment à Trévise, je crois.
Alors la province de Trévise, effectivement, là c'est la championne d'Europe, puisque les habitants ne produisent plus que 53 kilos par an d'ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire la poubelle qui termine en décharge.
Presque l'équivalent d'un Africain finalement.
Oui, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être ça, avec un niveau de consommation qui pourtant est assez similaire à ceux qu'on a en France, alors que nous on est à 300 kilos. Donc si eux ils ont réussi à descendre à 53 kilos, ça veut dire qu'on peut le faire également aussi et sans sacrifier une qualité de vie quelconque. Et les villes italiennes sont de plus en plus nombreuses à montrer la voie au niveau de la collecte des biodéchets notamment. Donc là, on a des représentants de Milan, de Parme, qui viennent témoigner de comment ils ont mis en place à grande échelle la collecte des biodéchets.
Et comment ça se passe à Trévise, par exemple? Quels sont les leviers qui ont permis de réduire autant le nombre de kilos de déchets par habitant?
Alors, en plus de cette collecte des biodéchets, parce que ça représente déjà 30% de la poubelle. Et il y a de nombreuses actions qui sont mises en place pour maximiser vraiment le recyclage. Donc ça réduit les ordures ménagères résiduelles. Et puis, toutes les actions de prévention. Et ce sont notamment des territoires sur lesquels on est sur un mode de tarification incitative pour le service public de gestion des déchets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'en tant que citoyen, on va payer en fonction de la quantité qu'on jette le service public de gestion des déchets. Donc,
ça se fait de plus en plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a des puces par exemple sur des poubelles, oui c'est encore embryonnaire mais ça se développe et donc on sait combien notre poubelle pèse et on paye, plus ça pèse, plus on paye quoi.
Voilà, il y a toujours une part fixe hein, pour contribuer aux frais fixes, mais il y a une part variable et donc quand on fait l'effort de réduire ses déchets et de trier au maximum, de trier le mieux possible, du coup on est aussi récompensé de son geste en tant que citoyen.
Et c'est très répandu en Europe déjà ou...
Alors c'est très variable d'un pays à l'autre et même en France c'est très variable d'une région à l'autre. Par exemple en Franche-Comté, plus de 3/4 du territoire est couvert par une tarification incitative, mais il y a d'autres régions dans lesquelles c'est quasiment absent.
Et c'est dû certainement à la volonté d'hommes ou de femmes, c'est ça ?
Oui, là pour le coup, c'est quelque chose qui dépend directement des élus. Pour des élus locaux, c'est vrai que ça peut être un petit peu effrayant parce que c'est un changement de système complet de facturation. Donc déjà sur le plan purement administratif, c'est pas simple à mettre en œuvre, mais bon, ça se fait tout à fait. Et puis il y a parfois des craintes de certains élus d'incivilité qui serait en recrudescence à partir du moment où on fait payer en fonction de ce qu'on jette. En réalité, ce qu'on observe dans la pratique chez les collectivités, dans les territoires qui l'ont mis en place, c'est que les incivilités, quand il y en a, c'est pas automatique, quand il y en a, elles se résorbent assez rapidement au bout de quelques mois, parce qu'on va pas non plus aller jeter sa poubelle chez le voisin pendant des mois sans que rien ne se passe.
Alors, ce qui marche beaucoup, évidemment, ce sont les initiatives portées par les individus. On a plein de porteurs de projets autour de cette table, on va vous les faire découvrir.
C'est pas du vent. magazine de l'environnement sur RFI.
Nous sommes installés au Cabaret Sauvage à Paris sous une tente, à l'abri parce qu'il y avait du vent et de la pluie il y a quelques minutes. On est collé à côté d'un bar multicolore, c'est là où se passe le déjeuner dans quelques instants. Et donc c'est dans cet endroit-là que pendant 3 jours se déroule le festival Zéro Waste dédié au mouvement Zéro Déchet, Zéro Gaspi qui prend de l'ampleur dans le monde. Jean-Jacques Fasquelle, vous faites partie des pionniers hein, en France, puisque vous le disiez, depuis 8 ans déjà, vous formez les Parisiens à la fabrication du compost. Ça a démarré dans votre immeuble, où vous vous êtes rendu compte, donc, comme vous le disiez, qu'un tiers de vos déchets pouvaient être réutilisés. Ça s'est passé comment, cette prise de conscience ?
Je pense que c'est une réflexion personnelle. Il y a un moment où on se rend compte que la vie qu'on mène génère beaucoup de déchets et que c'est une ineptie, et notamment que c'est 30% de la poubelle, elle part dans un camion à l'incinérateur, et qu'il y a quand même... c'est complètement crétin d'aller essayer de brûler des déchets qui sont souvent en plus pleins d'eau. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire je produis des déchets, à un moment il faut que je les assume, j'en suis responsable, et la meilleure façon de les assumer, c'est essayer de les traiter soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup le compostage, c'est plus un déchet, puisque la définition officielle d'un déchet, c'est ce que j'abandonne à la collectivité. Donc là, au contraire, je vais le traiter moi-même.
Alors 8 ans plus tard, ça donne la création d'un jardin partagé.
8 ans plus tard, ça donne 80 foyers qui compostent 8 tonnes de biodéchets par an. Et puis dans cette dynamique-là, effectivement, quand on produit du compost, on se dit qu'ensuite, ça serait bien qu'il reparte à la terre, donc création d'un jardin partagé. Et puis ce jardin entraîne la création d'un rucher pour polliniser les fleurs et les légumes. Et puis dernièrement, on a même été jusqu'à créer le premier poulailler en pied d'immeuble à Paris. Donc, ce qui est complémentaire, c'est un outil de traitement complémentaire.
Il n'y a pas de compétition entre ce que mangent les poules et ce que vous mettez dans le compost.
C'est plutôt complémentaire puisque les poules, elles sont omnivores, donc dans l'absolu elles mangent pratiquement tout à l'exception des agrumes notamment. Mais voilà, c'est complémentaire, et puis c'est aussi de remettre de l'animal dans le minéral de la ville. Et il y a tout un enthousiasme, c'est-à-dire que le déchet n'existe plus. Le déchet il magnifie, il crée du lien social, donc c'est plus du tout la même vision des choses.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est que du coup, les gens se sont mis, parce que quand on est à Paris, dans un immeuble, parfois, on ne connaît même pas son voisin de palier. Là, ça a créé, du coup, un vrai partage.
Au-delà du traitement des déchets, le compostage partagé crée du lien social. Et nous, dans notre immeuble, c'est vraiment superbe, puisqu'on a même maintenant une chorale. C'est-à-dire que, vu qu'on fait une fête tous les ans du jardin et beaucoup d'apéros compost, on aime chanter. Donc maintenant, on a une chorale qui est l'émanation un peu de cette dynamique-là.
Et vous, vous chantez ?
Et je fais partie effectivement de la chorale.
Non, me regardez pas avec ces yeux suppliants, je ne vais pas vous demander de pousser la chansonnette. Alors, vous travaillez donc au sein de votre immeuble, vous avez même quitté votre travail maintenant, fort de cette expérience, vous êtes devenu maître composteur et vous formez donc dans toute la France finalement des particuliers, des collectivités locales, des entreprises, il y a une vraie demande.
Tout à fait, alors dans mon immeuble, je continue de le faire bénévolement parce que c'est mon geste citoyen qui a changé ma vie, donc je vais continuer à le faire bien avec beaucoup de passion, gracieusement. Mais ensuite, effectivement, c'est devenu mon métier. Et donc, j'accompagne en formant des gens qui eux-mêmes vont être des relais de terrain, ou en accompagnant des projets. Bien sûr, des pieds d'immeuble, parce que c'est un peu ma spécialité historique, mais de plus en plus maintenant, dans des établissements scolaires, dans des entreprises. D'autant que la nouvelle loi gros producteurs impose à tous les producteurs de biodéchets de plus de 10 tonnes par an, à les trier et à les traiter biologiquement.
Donc ça concerne par exemple les cantines scolaires ?
La plupart des cantines scolaires, en général, au-dessus de 400 repas, on est au-delà de ce seuil-là.
Donc le chantier est immense ?
Il y a du boulot, effectivement. Mmh. Mais après, il faut aussi savoir convaincre, parce que l'obligation légale, elle est là, mais on se rend compte dans la pratique que beaucoup pourraient se faire tirer l'oreille. Normalement, l'amende est élevée, il y a même une peine d'emprisonnement qui est prévue. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sanctions. Donc, ça serait bien que les gens qui ont cette obligation-là passent à l'action et exercent leurs responsabilités.
Et en plus, ça fait économiser de l'argent. C'est notamment à travers cet argument, Florence Léa-Siri, que vous avez réussi à convaincre avec votre démarche qu'on évoquait tout à l'heure, chic frigo sans fric. Expliquez-nous le principe.
Ben, en fait, moi, je suis cantinière sur les plateaux de tournage, donc dans une cantine.
Dans le cinéma, alors?
Oui, cinéma, télé, tout ce qui se fait à l'écran. Puis, c'est à force de gaspiller et de voir à quel point je produisais des déchets adhérant à une industrie qui était vraiment très polluante, que j'ai décidé que j'allais changer moi-même ma démarche. Donc, je pouvais me plaindre à tous, mais personne n'allait changer mes propres habitudes. Donc, c'est à force de moi me dire, ben, je vais poser des petits gestes que ça a fait de boule de neige. Donc, c'est vraiment devenu un mouvement autour de mon travail. Puis maintenant, cuisiner en gaspillant, ben, c'est plus une option pour moi. C'est plus intéressant de prendre ce qui m'apparaît un rebut, lui donner une deuxième vie pour que quand il aboutisse au compost, ben, il y ait déjà eu une option avant qu'il devienne un déchet.
Ouais, pour résumer, vous êtes experte en gestion des restes.
Oui, c'est comme ça on m'appelle.
Ça vient de votre maman. Je crois qu'il y avait déjà 6 poubelles de tri.
Oui, ma mère est journaliste, elle se spécialise en environnement. Mais,
c'est un beau métier.
Ouais, mais elle a aussi une fermette artisanale, donc à la maison, moi je fais du compost depuis que je suis enfant. Si j'avais le malheur de ne pas mettre le déchet dans la bonne poubelle, donc ça pour les volailles, les moutons, quoi, je passais un mauvais quart d'heure, donc j'ai appris à être nerveuse devant une poubelle. Donc maintenant, clairement, c'est inné en moi. Donc, c'est pour ça que naturellement, j'étais choquée de voir ma production de déchets sur les bateaux de tournage. Donc, j'ai changé mes contenants jetables parce qu'évidemment, je sers des repas qui sont... ils se consomment puis ils se jettent. Donc, c'est des contenants compostables. Puis, ce que je vais mettre dedans, je récupère mes plures, mes noyaux pour en leur donner une deuxième vie pour faire des limonades, décider ça. Donc, finalement, évidemment que je réussis à sauver des sous.
Alors, pour garder des auditeurs jusqu'à la fin de l'émission, on donnera la recette, des petites recettes à la fin de l'émission. Mais en gros, vous faites de la cuisine, je crois que le terme générique, c'est tout ce qui, c'est avec tout ce qu'on a à disposition. On ouvre son frigo ou son placard et on dit qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avant d'aller racheter, on fait avec ce qu'on a. C'est ça le principe.
Oui, ben en fait, le but, c'est de démontrer que c'est pas en consommant qu'on va être capable de s'alimenter, mais c'est en stimulant nos réflexes créatifs. Donc, c'est vraiment, quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on mange, je dis du tout ce qui. Donc, ils ont le plaisir d'ouvrir leur plat, de se dire, ah, ben c'est vrai, hier, j'avais des mangues au menu, mais s'il en est resté, j'en ai encore, mais sous une autre formule. Donc, c'est pas chacun. Puis, il y a aussi le fait que les gens, ils mangent comme si c'était toujours la dernière fois qu'ils allaient manger des choses parce qu'ils savent que j'aurai jamais les mêmes ingrédients, même si je reproduis une recette. Je fais avec ce que j'ai dans le frigo. J'ai pas l'habitude de dire, oh là là, j'ai pas ça, donc je peux pas réaliser mon travail. Au contraire, je dis, j'ai pas ça, super, je vais pouvoir inventer ça, ça, ça. Ça m'arrive encore de faire des erreurs, mais j'assume complètement mes erreurs, puis ça me permet de mieux me connaître aussi. Donc, pour moi, c'est ultra valorisant, puis c'est un peu la passion, puis l'estime de moi que j'ai gagnée, que je veux transmettre aux gens.
Alors, du coup, vous avez diminué votre quantité de déchets?
Oui. Bien, je vous dirais que je ne vis pas zéro déchet au quotidien, mais dans la cuisine, par exemple, je pense que je suis rendue assez pro.
Flore Berlingon, il y en a beaucoup, des personnes comme Florence Léa-Siri.
Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. En fait, le mode de vie zéro déchet fait vraiment de plus en plus d'adeptes. Je pense que c'est une réaction, finalement, un ras-le-bol par rapport au gaspillage qu'on observe au quotidien, à la fois à la maison, mais aussi au bureau, dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et qu'en fait, pour de nombreuses personnes, ça devient un contre-réflexe, en fait. On en a ras-le-bol de la surconsommation. Et du coup, on va se fixer ce challenge, ce défi. Donc, il y a une dimension parfois ludique aussi. Allez, est-ce que je peux arriver à zéro ou quasiment zéro ?
Et puis être fier de soi, ce que vous évoquiez.
Exactement, être fier de soi. Et puis aussi retrouver un rapport plus direct à ce qu'on consomme. Parce qu'en fait, ce qu'on observe dans les pratiques de mode de vie zéro déchet, c'est que ça va aussi avec une volonté de savoir précisément ce qu'on met dans son assiette, ce qu'on se met sur la peau ou ce qu'on met dans sa maison. Donc, retrouver un lien direct avec sa consommation et connaître la composition des produits. Quand on consomme zéro déchet, généralement, on revient à des basiques et ensuite on fait ses propres recettes, que ce soit au niveau de la cuisine ou au niveau de la salle de bain ou de l'entretien de la maison. Voilà, on a trop de produits aujourd'hui dans les magasins habituels où on n'arrive même pas à savoir la composition précise parce que l'étiquette est indéchiffrable.
Alors il y a aussi les déchets électroniques, les emballages, les sacs plastiques à usage unique qui sont interdits d'ailleurs depuis hier en France et au Maroc. Et oui, le même jour, on en parle avec nos invités, toujours installé au Cabaret Sauvage à Paris, juste après le flash d'info. A tout de suite.